Vous savez, dans le conte de fées, la belle et la bête, d'ailleurs, c'est le titre de mon message ce matin. L'auteur est nommé Madame le Prince de Beaumont. Va présenter les belles qualités du genre humain. Par exemple, nous avons l'histoire d'un pin qui est condamné à mort pour le vol d'une rose. Et il est sauvé par l'une de ses filles, belle, qui décide de se sacrifier pour lui en s'allant vivre dans un château avec un monstre hideux, qui est la bête. Et malgré le fait qu'elle s'est évanouie en voyant la bête pour la première fois, Belle se rend compte que la bête est autre chose que ce qu'un premier coup d'œil ferait croire. Et bien sûr, comme dans tout bon conte de fées, elle commence à l'aimer. Et vers la fin de l'histoire, la bête meurt à cause d'un cœur brisé, mais il va ressusciter quand Belle va déclarer qu'elle aime. Et la bête va ressusciter non comme un monstre, mais comme un prince charmant. Vous savez, la fin de l'histoire, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants, vécurent heureusement jusqu'à la fin de leur jour, etc., etc. Tout est bien qui finit bien. Mais avez-vous remarqué que dans cette histoire, il y a des belles qualités? Nous avons le sacrifice. Belle va se sacrifier pour sauver son père. Nous avons l'histoire, bien sûr, aussi de l'amour. Elle aime la bête pour ce qu'il est et non pas à cause de son apparence. Et surtout à la fin de l'histoire, il y a ce que j'appelle le triomphe de l'amour. Et ce sont les qualités, des ingrédients d'une relation réussie, surtout dans une vie de couple. Mais dans notre texte pour ce matin, nous avons à certains égards le contraire. Dans ce texte ici, nous avons un bris de relation entre la bête, qui est l'Antichrist, et la femme, ce faux système religieux qui est présenté comme une prostituée. Entre celui qui est l'imitation de Christ, ça c'est l'Antichrist, et celle qui est l'imitation de l'Église, qui est la femme ou la prostituée. Et d'ailleurs, si vous comparez le chapitre 7 de l'Apocalypse avec le chapitre 21, vous allez voir deux expressions qui sont tout à fait presque identiques. L'ange, l'un des anges qui tenait les sept coupes de la colère de Dieu, va dire à Jean, « Viens, je te montrerai la grande prostituée. » Dans le chapitre 21, il y a un ange aussi qui va dire à Jean, « Viens et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et quelqu'un a bien dit que le chapitre 17, c'est un chapitre de contraste. Et ce que nous allons voir ce matin. Un contraste entre l'Antichrist et sa relation avec cette femme et un contraste entre Christ et la relation avec son Église, l'épouse, la vraie Église. Et j'aimerais ce matin vous poser une question. Comment est votre relation avec le Seigneur? Vous arrive-t-il de douter de son amour, de sa sagesse, de ses plans pour vous, pour votre vie? J'aimerais qu'on va regarder ce matin trois raisons pour la chute de Babylone, ce faux système religieux. Mais en contraste, si vous faites partie de la vraie Église de Dieu. Ma prière, c'est que nous soyons tous encouragés parce que Dieu dit à propos de la vraie Église et la contraste qu'on trouve dans la parole de Dieu. Alors, tout d'abord, ce faux système religieux, Babylone la Grande, va tomber, va chuter à cause de la faiblesse de l'Antichrist. Regardez, si vous voulez, au verset 7, où l'ange va dire, « Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, etc., etc. » Si vous regardez au verset 8, vous allez voir que l'ange continue en disant, « La bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. » Aller à la perdition. Si vous regardez encore au verset 11, c'est une expression clé. La bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un huitième roi. Elle est du nombre des sept. Elle va à la perdition. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? J'aimerais vous suggérer ici que nous sommes en présence d'une supercherie de la part de Satan. Chapitre 13 nous démontre que cette bête qui a sept têtes et 10 cornes. Si vous lisez un peu dans l'Ancien Testament, ou bien si vous suivez un peu, étudiez un peu la prophétie, vous allez voir que c'est la même bête qui est dans le dernier chapitre 7, qui a sept têtes, 10 cornes. C'est la petite corne aussi de Daniel chapitre 7, nous l'avons aussi dans Daniel chapitre 9 comme le chef qui viendra. Dans 2e Thessaloniciens, nous parlons d'un homme impie, le fils de perdition, l'adversaire. Bref, on peut identifier cette bête ici comme l'antichrist, l'imitation de Satan pour imiter le vrai Christ. Et Satan va plus loin jusqu'à imiter le Seigneur Jésus-Christ. Il va imiter sa mort et sa résurrection. Dans le chapitre 13, nous lisons que la bête qui est là reçoit une blessure mortelle et ensuite cette blessure est guérie et tout le monde est en admiration après cette bête. Ça, c'est le sens quand Jean dit à propos de cet animal, cette bête, elle était, elle n'est plus, reparaîtra. Ça, c'est sa résurrection. Et le verset 8 nous montre que quand cette bête va monter de l'abîme, ça, c'est l'endroit où quand il va réapparaître, il monte l'abîme, sans doute l'antichrist revient possédé par un démon puissant, parce que dans l'abîme, c'est là l'endroit où est-ce qu'il y avait certains démons qui étaient enchaînés. Mais malgré justement cette fausse résurrection, malgré le fait qu'il est possédé maintenant, il sort de l'abîme et il est possédé par un démon, l'antichrist est impuissant pour assurer sa survie. Le texte nous dit, il va sortir de l'abîme, il va à la perdition. Et quel contraste avec le vrai Christ. Le vrai Christ, Apocalypse nous dit, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, celui qui était, celui qui est et celui qui vient, le Tout-Puissant. L'Antichrist, en contraste, est celui qui était, celui qui n'est plus, celui qui reparaîtra, mais celui qui va à la perdition. Il y a un qui s'en vient, il y a l'autre qui s'en va. Et puisque cette femme maintenant est portée par cette bête, sa vie et sa survie est étroitement liée avec la survie de l'Antichrist. Ce système-là ne peut pas exister si l'Antichrist n'existe pas, parce que l'Antichrist porte justement cette bête, ce faux système. Deuxièmement, la chute de Babylone, due à la faiblesse de l'Antichrist, est évidente dans l'inconstance d'Antichrist. L'inconstance. Regardez, si vous voulez, au verset 9 et au verset 10. C'est l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et verset 10, ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Vous savez, les montagnes en Écriture, dans les Écritures, nous parlent des puissances ou des royaumes. Verset 10 nous dit que les sept têtes sont sept montagnes. Juste quelques textes. Dans Psaume 30, au verset 8, pas besoin d'y tourner, mais David va dire ceci: Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Il parle de son royaume. Dans Jérémie 51, verset 25, quand Dieu dit, « Voici, j'en veux à trois montagnes de destruction », il fait référence au royaume de Babylone. Mais dans le texte ici, nous avons une certaine difficulté que je vais vous prévenir tout de suite. Le mot qui est utilisé pour montagne peut avoir une double signification. Ça peut être faire référence justement à un royaume et aussi en même temps à un roi. Et ça, c'est ce qu'on appelle un principe herméneutique qui est rare. Et c'est pourquoi l'ange va prévenir à Jean que vous allez avoir besoin de l'intelligence et la sagesse pour le comprendre, parce que ce n'est pas facile, ce texte qui est devant nous ce matin. Il y a une double signification, c'est énigmatique dans le verset 10 et le verset 11. Alors quand l'ange va dire que la femme est assise sur sept montagnes ou sept rois, il parle de sept royaumes et cinq sont tombés. Ce texte a fait couler beaucoup d'encre. Mais sans rentrer dans tous les arguments, la plupart des commentateurs disent ici qu'il s'agit dans le contexte ici de sept royaumes. Parce que le mot peut avoir la signification de roi ou de royaume. Il y a quelques-uns qui le voient comme des rois, d'autres qui se voient comme des royaumes. Mais je vous dis que la plupart des commentateurs voient ça comme des royaumes. Alors, cinq sont tombés, on peut justement comprendre ce contexte ici. Comme il y avait cinq royaumes avant justement les royaumes de l'Antichrist, les royaumes de l'Égypte, la Syrie, Babylone, Médo-Perse et la Grèce. Cinq sont tombés. Un existe à l'époque où est-ce que, au moment où est-ce que l'ange parlait à Jean, il y avait l'Empire romain qui était là. Et l'autre n'est pas encore venu, il parlait justement de l'Empire de l'Antichrist. Ça, c'est dans ce compte ici. Ensuite, maintenant, il dit que la durée de cet royaume, de ce royaume-là, il dit que quand il viendra, il doit rester peu de temps. Et ça concorde précisément, exactement, avec la durée du royaume de l'Antichrist. Sept ans, que je divise en deux blocs, le avant et l'après. Avant sa résurrection, sa mort, je veux dire avant sa mort, sa blessure mortelle, et après. Et l'interprétation colle parce que si vous étudiez ces royaumes que j'ai mentionnés, l'Égypte, la Grèce, Babylone, le royaume des Mèdes et des Perses, Rome, vous allez voir comment est-ce que l'idolâtrie, le faux système religieux est collé à ce système. En Égypte, il y avait des dieux à ne pas finir. Grèce, la même chose. Rome. Et la femme est démontrée comme assise sur justement ces royaumes. Et quand Antichrist va venir et va établir son royaume, pendant les trois premières années et demie, ce royaume aussi est influencé par la femme, le faux système religieux. Et Antichrist semble justement se plaire dans ce système, dans l'idolâtrie, parce que le texte nous dit au verset premier, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Mais quand on vient maintenant au verset 11, on voit un changement radical dans la situation. Le verset 11 nous dit, la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Et elle est du nombre des sept et elle va à la perdition. Alors ici, dans ce texte maintenant, le mot roi va signifier pas le royaume, mais le roi lui-même. Pourquoi? Parce que un roi ne peut pas recevoir une blessure mortelle. Un royaume ne peut pas aller dans l'abîme, monter de l'abîme. puis un royaume ne peut pas aller à la perdition. Alors le texte ici nous démontre qu'il s'agit d'un roi. Mais comment est-ce qu'Antichrist peut être le huitième roi et aussi en même temps un septième? Mais avant sa blessure mortelle, il est démontré comme avec son royaume le septième. Et après sa blessure mortelle, il réapparaît comme un roi, un huitième, associé avec ce huitième royaume. Pourquoi est-ce que la Bible nous donne tant de détails? C'est pour nous démontrer que la relation avec l'Antichrist et ce faux système religieux, son épouse, n'est pas la même avant et après. Avant, la femme est assise sur les sept têtes. Elle influence son empire, elle influence son royaume. Antichrist se donne à l'idolâtrie. On voit après cela, il reçoit une blessure mortelle. Il meurt, il y a une fausse résurrection, il sort de l'abîme. Et maintenant, nous voyons que Antichrist porte le faux système. Il est en contrôle. Ce système maintenant va dépendre de lui. Et dans le texte ici, nous avons un changement radical de son attitude envers ce système. Et même comme nous avons lu dans le texte, il va se mettre avec 10 rois pour haïr ce système et aussi pour participer à sa destruction. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ici « Un homme qui est inconstant ». À un moment donné, il se donne justement à l'idolâtrie avec ce système. Dans un autre contexte, il va haïr justement ce système, il va le détruire. Et troisièmement, ce système va chuter à cause justement de la motivation d'Antichrist. Un homme de mauvaise motivation. Vous savez, la motivation des époux est d'une importance capitale dans une relation de couple. Montrez-moi un homme qui est motivé par l'amour et par le sacrifice envers sa femme, et une femme qui se met sous l'autorité de son mari, et je vous montrerai une relation réussie. Mais quelle est maintenant la motivation d'Antichrist à l'égard de ce faux système religieux? Est-ce qu'il est prêt à se sacrifier pour cette cause quand plusieurs ont fait pendant l'histoire, où est-ce qu'on voit des personnes qui se voient se donner même leur vie pour une cause? Si vous regardez le chapitre 13, pas besoin d'y tourner, quand l'Antichrist réapparaît, c'est un homme qui est égocentrique. C'est un homme qui va maintenant rechercher l'adoration. Avant, on adorait ce système, on se livrait à la débauche, l'idolâtrie avec ce faux système. Après, c'est l'Antichrist maintenant qu'on doit adorer. C'est lui qui est le centre de tout. Et même, il y a le faux prophète qui est là, ils vont faire une image justement de l'Antichrist, et ceux qui ne vont pas l'adorer vont être mis à mort. Bref, nous avons quelqu'un qui est égocentrique. Il est motivé par ses propres désirs et ses propres intérêts. Et je vous ai dit que c'était un chapitre de contraste. Ce matin, n'êtes-vous pas heureux de savoir que vous appartenez au vrai Messie et non pas au faux? Vous faites partie de la vraie Église, l'épouse de Christ. Que vous appartenez à celui qui a dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant, j'étais mort. » Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et il a dit ici, parce que je vis, vous vivrez aussi. Dans Jean 10, il a dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais en parlant de ces brebis. Et quel contraste avec l'Antichrist qui revient et qui s'en va à la perdition. La vraie Église de Christ va demeurer au siècle des siècles parce qu'elle dépend de Christ et Christ vit au siècle des siècles. Quel contraste aussi avec la relation qu'Antichrist entretient avec la prostituée, le faux système religieux, idolâtre. C'est une relation qui est changeante, comme nous avons vu. Ça me fait penser un peu de cette relation que Amnon a entretenue avec Tamar. C'est une histoire sordide, mais c'est un des fils de David qui est tombé en amour avec sa demi-sœur. Et il s'est rendu malade, justement, d'amour pour elle. Et après, justement, qu'il a violé, il a justement eu de la haine. Un homme qui a changé radicalement ses sentiments à propos justement de cette pauvre femme. Vous savez, Jésus-Christ, notre divin époux, est le contraire avec l'Antichrist. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Et son amour pour nous, chers amis, soyez rassurés, ne changera jamais. Il nous aime d'un amour éternel. J'aime beaucoup le texte qui est dans Jean 13, chapitre 1. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il a mis le comble de son amour pour eux. Laissez-moi vous rassurer, chers amis, que nous avons affaire avec un sauveur qui est immuable, constant dans son amour pour vous et dans son amour pour moi. Et comme on dit souvent, vous ne pouvez rien faire pour que Christ vous aime moins et vous ne pouvez rien faire pour que Christ vous aime plus. Son amour pour vous, c'est inconstant. Et ça, c'est rassurant. Pas comme l'amour et cette relation que l'Antichrist a entretenu avec ce faux système. À un moment donné, on le voit coller ensemble. À un autre moment, il va rejeter ce système. Il va même la détruire. Et troisièmement, quel réconfort de savoir que nous sommes aimés non seulement en parole, mais en action. L'Antichrist nous montre qu'il est égocentrique. Quand il revient, il va rejeter ce système. Et tout le monde doit l'adorer, va même mourir s'ils ne veulent pas, justement, se prosterner devant lui. Et quel contraste avec le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a aimé l'Église et qui s'est sacrifié pour elle. Et quel amour! Il ne voit pas cette Église comme une rivale en ce qui concerne sa gloire ou ses richesses. Même la Bible nous dit que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour nous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et quel contraste! Antichrist va dépouiller justement ce système. Un système qui est caractérisé par le luxe et les richesses. Christ, lui, se sacrifie pour son épouse, justement, et partage justement ses richesses avec elle. Et j'aime beaucoup le verset dans Jean chapitre 17, où le Seigneur a dit ceci, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Pas de rivalité. Le Seigneur est celui qui se sacrifie pour son épouse, qu'il aime, et justement qui est prêt à tout partager avec elle. Deuxièmement, non seulement Babylone la Grande, le faux système religieux sera détruit à cause de la faiblesse justement de l'Antichrist, mais à cause de ce que j'appelle la folie des acolytes. La folie des acolytes. Regardez votre texte si vous voulez au verset 12 et au verset 13. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et dans leur puissance et leur autorité à la bête. Et au verset 16 plutôt, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, etc., etc., etc. Les 10 cornes dans ce texte ici nous parlent justement, on les voit à travers les Écritures, on n'a pas le temps d'aller dans tous les textes, mais dans Daniel chapitre 2, ce sont les 10 orteils de cette statue que le roi Nebuchadnezzar a vue. Dans Daniel chapitre 7, on les voit sur la tête d'un animal qui est terrible, épouvantable, qui représente justement le royaume de l'Antichrist. Dans Apocalypse chapitre 12, on les voit sur la tête du dragon, qui est Satan, qui est là, qui veut dévorer cette femme avec son enfant. Et ici, dans Apocalypse chapitre 13 et Apocalypse chapitre 17, ils sont sur la tête de l'Antichrist. Je les appelle les acolytes de l'Antichrist. Et ce sont des chefs qui vont s'associer avec Antichrist pendant son règne. Et personnellement, je trouve que ces acolytes-là, dans leur façon d'agir, me fait beaucoup penser à la personne du Saint-Esprit. Et ça, c'est une réflexion personnelle. Parce que dans ce chapitre-là, nous avons les imitations. L'Antichrist imite Jésus-Christ. La femme, la prostituée, imite la vraie Église. Nous avons le dragon qui est en chapitre 13 qui imite Dieu le Père. Il manquait quelqu'un dans la casse-tête, le puzzle. Et nous avons ici ces 10 acolytes qui vont se mettre avec l'Antichrist. Et je vous explique pourquoi je pense que c'est une image de l'Antichrist. Quand la Bible parle des cornes, ça peut avoir un sens littéral, mais ça aussi, ça peut avoir un sens figuré qui va nous parler des puissances. Dans Daniel chapitre 8, nous lisons que le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont des rois, les Mèdes et les Perses. Alors, ça peut être des puissances. Et le Saint-Esprit, lui, est décrit dans la parole de Dieu comme un esprit de puissance. Jésus a dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Et dans 2 Timothée, Paul va dire à Timothée que l'esprit que Dieu nous donne ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous rend, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et ainsi de suite. Et vous savez, ils vont recevoir l'autorité comme roi. Et cette autorité, on peut se poser la question, mais qui leur donne cette autorité? Mais j'aimerais vous suggérer que puisqu'on voit ses cornes sur la tête de l'Antichrist, sur la tête du dragon, et aussi ce qui forme les 10 orteils de cette statue, j'aimerais vous suggérer que cette autorité vient de Satan. Satan, c'est le maître de l'imitation. Il va imiter le Fils, il va imiter l'Église, il va aussi imiter le Saint-Esprit. Et il va faire en sorte que 10 rois ici, dans ce royaume, va s'associer pour donner leur puissance et leur royauté à l'Antichrist. Et d'ailleurs, ça se reflète beaucoup le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien de fois nous lisons que Jésus, poussé par l'Esprit, Jésus rempli d'Esprit, et nous avons cette association ici, l'Esprit et le Christ, ses acolytes, avec justement l'Antichrist. Mais il manque une chose. Pour que tout cela puisse fonctionner, ça prend l'unité. Si vous réfléchissez un peu, nous avons Dieu le Père, nous avons le Saint-Esprit, nous avons le Fils, nous avons l'Église. Et qu'est-ce qui tient tout cela ensemble? C'est l'unité de l'Esprit. Et qu'est-ce qui tient, d'où vient et d'où découle l'unité? C'est la vérité. C'est la vérité de Dieu. Jésus-Christ va dire dans Jean chapitre 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et montre-moi une église qui est basée sur la vérité, vous allez voir une église qui marche dans l'unité. Mais il y a un problème ici. Satan, c'est menteur et le père du mensonge, et il ne peut pas, même s'il imite le Fils, il imite l'épouse, il imite justement le Saint-Esprit, il ne peut pas imiter la vérité de Dieu. Et c'est pourquoi cela ne tient pas debout. Et ce système va s'écrouler. Et ces 10 acolytes, maintenant, au lieu d'être attachés ensemble, ils vont se mettre avec l'Antichrist. Et ensemble, ils vont haïr justement le système religieux. Ils vont haïr la femme. Ils vont utiliser leur puissance pour le détruire. Et au verset 16, vous avez un langage assez graphique qui nous démontre qu'est-ce qui va se passer. Je n'entre pas tout dedans, mais c'est la folie. Pourquoi je dis c'est la folie? Parce qu'ils vont se mettre ensemble pour détruire l'un des leurs. Et encore une fois aussi, la folie va aller plus loin. Ils vont être même osés attaquer l'Antichrist. Il y a un texte dans Marc chapitre 3 qui est très bien en ce moment-là. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Satan se révolte contre lui-même. Il est divisé. Il ne peut subsister sans effet de lui. Et dans leur folie, ils vont s'entretuer. Ils se divisent. Ils vont détruire le système religieux. Et quel contraste! Quel contraste avec l'esprit de sagesse que Dieu a mis dans le sein de son Église. Non pas pour détruire, mais pour édifier. Pour édifier son Église. Quel contraste! Et comment est-ce que le Saint-Esprit fait cela? J'aimerais vous suggérer, c'est par les dons qu'ils accordent aux croyants. Dans sa sagesse, le Saint-Esprit a équipé, et ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, on n'a pas le temps de le voir ce matin, mais vous lisez ce texte, vous allez voir, le Saint-Esprit a équipé les membres de l'Église, vous et moi, avec des dons pour l'édification, justement, de l'Église. Pour la construire dans sa sagesse et non pas pour la détruire. Et nous devrions nous poser une question ce matin, est-ce que je fais partie justement de la solution? Est-ce que je suis en train d'utiliser mes dons pour construire justement l'Église de Dieu? Ou bien est-ce que je fais partie justement du problème? Je termine avec ce troisième point, la chute de Babylone la Grande, à cause justement de la fidélité de Dieu. Nous avons vu la faiblesse de l'Antichrist, nous avons vu la folie des acolytes, mais aussi dans ce texte ici, nous avons la fidélité de Dieu. Dans plusieurs textes, au verset 17, nous lisons « Car Dieu a mis dans le camp d'exécuter son dessein ». Après avoir dit que la bête et les 10 rois vont haïr la prostituée, vont le détruire, Dieu a mis dans le camp d'exécuter son dessein jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et laissez-moi vous dire que Dieu est fidèle à ses promesses. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir qu'à plusieurs reprises, Dieu avait dit « Babylone, ce faux système idolâtre sera détruit ». Et il a utilisé les Mèdes et les Perses pour amener une destruction partielle justement de Babylone. Mais si vous lisez les textes comme Jérémie chapitre 51, Ésaïe chapitre 14, vous allez voir qu'il est porté encore plus loin que ce faux système qui va exister à la fin des temps serait complètement et totalement détruit parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Première chose. Et Babylone avait été prophétisée qu'elle sera détruite, ce système va tomber. Et deuxièmement, c'est l'actualisation des plans de Dieu. Le texte nous dit que Dieu a mis dans le cœur d'exécuter son dessein, un même dessein. Et quel était ce dessein ici? C'est de détruire ce faux système. Et voyez la puissance de Dieu. Comment Dieu est capable justement de prendre le mal que Satan et les acolytes et l'Antichrist va engendrer et utiliser ça pour exercer un jugement contre un système idolâtre. Et dans la parole de Dieu, nous avons la même chose. Il va utiliser Babylone pour châtier les enfants d'Israël. Et Dieu va utiliser aussi ce même système, justement le mal que ces personnes vont engendrer pour détruire l'un de l'autre. J'aimerais vous encourager en vous disant que dans la vraie Église, les mêmes deux choses existent. Dieu a fait des promesses à propos de son Église. Jésus-Christ a dit, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Et si vous êtes ici ce matin, vous êtes un vrai enfant de Dieu, soyez rassurés que cette Église va triompher à travers les siècles malgré les obstacles que Satan peut amener contre elle. Parce que Jésus-Christ est fidèle à sa parole. « Je bâtirai mon Église », il a dit. « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Quel encouragement pour nous. Alors, il n'y a pas de destruction. L'Église va triompher et l'Église va demeurer parce qu'elle est basée sur la parole de Jésus-Christ. Et ça, c'est la vérité. Et deuxièmement, l'actualisation des plans de Dieu. Satan peut vous attaquer. Il peut amener du mal dans votre vie. Mais Dieu est capable d'utiliser ça pour votre bien. Dieu fait agir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Et quand Joseph va rencontrer ses frères en Égypte, il va leur dire, « Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Dieu est fidèle. Et quel contraste, chers amis, je termine avec ceci, avec cette Église triomphante, en contraste avec ce faux système idolâtre qui a été détruit. L'Église va triompher à cause de la force du Fils, à cause de la sagesse de l'Esprit et à cause de la fidélité du Père. Et vous et moi, nous sommes privilégiés de faire partie de cette Église. Et combien nous devrions se réjouir et bénir Dieu que nous faisons partie justement des gagnants et non pas des perdants. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Tu es un Dieu qui est merveilleux, c'est un Dieu qui nous encourage, qui nous fortifie. Merci Seigneur que tu nous as aimés avant la fondation du monde et nous ne serons pas parmi ceux qui seront éblouis et séduits par l'Antichrist. Mais nous pouvons dire comme un autre qui a dit, mes yeux ont vu ta délivrance, mes yeux ont vu justement le Christ de Dieu. Merci Seigneur pour ton Fils, merci pour l'Église, merci de faire partie de cette Église qui va triompher à travers les siècles. Parce que toi, tu la tiens, tu la maintiens, tu la fortifies. Tu la bénis Seigneur, tu la purifies. Et un jour, tu vas te la présenter, une église glorieuse, sans tache, sans rides, sans rien de semblable. Et Seigneur, tu seras glorifié et nous serons glorifiés avec toi. Merci Seigneur pour ces grâces. On le demande et on te bénit Seigneur en ton nom et pour ta gloire. Amen.